penché sur l'actualité de la Mauricie.
Vous écoutez
Que la Mauricie se lève avec
Marc-André Pelletier.
Que la Mauricie se lève.
I don't like watching fake news.
None of us watch news anymore.
Since you're attacking us, can you give us a question? Mr. President-elect.
Go ahead.
Mr. President-elect, since you are attacking our news organization, can you give us a chance?
Your organization.
You are attacking
terrible.
Our news organization.
Your organization.
Can you give us a chance to ask a question, sir?
Go ahead.
Sir, can
Quiet.
You state, can,
Quiet.
Mr. President-elect,
go ahead.
Can you state categorically?
She's asking a question.
Mr. President-elect, can you give us a question?
Don't be rude.
You're attacking us. Can you give us a question?
Don't be rude.
Can you
no,
give
I'm
us
not
a question?
I'm not going to give you a question.
Can you state categorically?
You are fake news.
Sir,
go ahead.
Can you state categorically?
Fake news. C'est, je pense, le terme probablement le plus tweeté dans l'année, le mot-clé le plus populaire sur la planète, ou en tout cas certainement dans le top 3 ou top 5, quelque chose comme ça. Les fake news, on en parle souvent. C'est le travail pratiquement quotidien du président américain Donald Trump que vous avez entendu dans l'extrait qui vient de jouer, de discréditer le travail des médias. Mais qu'en est-il vraiment des fake news et quel impact peuvent avoir ces allégations de fausses nouvelles, finalement, sur le travail journalistique et le travail dans des situations importantes, comme par exemple la couverture d'une élection, qu'elle soit fédérale ou autre. Pour en parler, elle est professeure à l'Université Laval, également directrice du Centre d'études sur les médias. Colette Brin est avec nous. Bon matin.
Bon matin.
Donc, fake news, pour vous, ça dit quoi?
Ah ben pour moi ça dit beaucoup de choses. Je pense qu'on a il y a autant de définitions qu'il y a de d'usagers,
mm-hmm.
mais je sais pas un terme que j'utilise beaucoup là. On parle peut-être plus de désinformation ou de d'opérations de campagne en fait de mensongère. C'est pas du tout ce que ben enfin ce que l'extrait qu'on vient d'entendre nous dit, c'est que l'expression est récupérée ensuite par des politiciens, pas seulement Donald Trump d'ailleurs.
Ouais.
Qui vont ensuite s'en servir pour critiquer les journalistes, alors que les fake news, au départ, c'est vraiment des campagnes de désinformation massive. On pense à celle qui a été dirigée en Russie, par exemple.
Ouais.
Ben, pas par exemple, c'est principalement celle-là. Et donc, ils utilisent des messages mensongers, mais aussi pour inciter les gens soit à ne pas voter ou à voter pour certains candidats, et souvent des messages robotisés, donc à très, très grande échelle. Donc, c'est des campagnes, c'est pas de n'importe quoi. Oui, il y a des textes, il y a de la satire, il y a toutes sortes de choses qui se pratiquent,
mm-hmm.
mais quand on pense au problème des fake news, quand on essaie de régler le problème des fake news, c'est essentiellement ces campagnes massives de désinformation-là qu'on pense. Le fait que des politiciens se servent de ce terme-là qui fait peur à bien des gens pour discréditer le journalisme, pour moi, ça fait partie du problème.
Ouais.
Mais il y a aussi, bien sûr, il y a des problèmes dans le journalisme également. Mais pour moi, c'est d'une toute autre nature.
Parce que, Mme Brin, ça semble devenu pratiquement coutume de dire que dès le moment où on est un politicien ou, disons, un intervenant là, de la sphère publique et qu'il y a quelque chose qui nous déplaît dans ce qui est dit dans les médias, c'est le terme qu'on sort automatiquement. On
oui.
se cache derrière
on
ça.
On l'a sur le bout de la langue. Certains, dans le cas de Donald Trump, c'est clairement volontaire et il le martèle depuis des mois, même je pense plus d'un an là, mais dans la plupart des cas, je pense que c'est la nature des politiciens d'avoir certaines frustrations, souvent légitimes à l'égard des journalistes,
mm-hmm.
et d'utiliser ce terme-là, mais très souvent de s'excuser très rapidement parce qu'on se rend compte que utiliser cette stratégie-là, c'est parfois une arme à double tranchant. Par contre, ce qu'on a vu, c'est que dans la volonté de lutter contre les fausses nouvelles,
oui.
Il y a eu des initiatives législatives qui allaient, en fait, dans le sens de ces inquiétudes de politiciens-là. Au Canada, on a une nouvelle loi, la loi C-76, qui vient réformer, si on veut, les pouvoirs d'Élections Canada, puis aussi introduire des nouvelles mesures très précises pour la lutte contre la désinformation. Et ça comprend des choses concernant les candidats eux-mêmes. Hein? C'est-à-dire que si les candidats perçoivent qu'il y a des informations qui les concernent, qui sont fausses, qui circulent, ils peuvent demander que ces contenus-là soient pénalisés, retirés. La France a essayé de faire une loi dans ce sens-là, probablement la plus ambitieuse, qui a été rejetée par le Sénat, parce que justement, il y avait cette crainte que, dans le fond, ce soit les politiciens qui déterminent ce qui est vrai, ce qui est faux,
ouais.
ou que ça soit essentiellement de l'information qui les concerne eux. sûr qu'en campagne électorale, on s'intéresse normalement à la crédibilité des politiciens, à leurs affirmations, à leurs programmes, mais aussi à eux comme personnes. Hein. Est-ce que où est-ce qu'ils sont nés? Est-ce qu'on a leur acte de naissance? Hein? Mm-hmm. Ça, c'est déjà vu.
Oui.
Est-ce que leurs études, est-ce que leur CV a été gonflé? On a déjà entendu parler de ça au Canada. Des journalistes, mais pas seulement, qui vont scruter un peu les faits d'armes là, des politiciens. Donc là, la loi fédérale va permettre de combattre des informations fausses là, qui circulent, mais là, comment ça va se passer, ça reste à voir. Il faut dire qu'au Canada, on est quand même beaucoup moins aux prises avec ce problème-là que l'ont été les États-Unis. Mm-hmm. Et certains autres pays. Il y a un groupe de chercheurs à l'Université Oxford qui traque, si on veut, la désinformation ou la propagande électorale depuis le Brexit, on pourrait dire.
Okay.
Ils ont trouvé que certains pays étaient beaucoup plus fragiles que d'autres. Et ça, c'est là que c'est intéressant, aux fausses nouvelles. Hein. C'est que les fausses nouvelles, c'est pas seulement les méchants Russes et la technologie, c'est aussi la fragilité des sociétés qui sont ciblées. Et aux États-Unis, la grande fragilité, d'après les dernières études qui ont été faites ou les dernières analyses qui ont été faites des campagnes russes, c'est vraiment la désaffection, l'amertume, la déception d'une certaine partie de l'électorat. Et on parle surtout de l'électorat noir qui a tendance à voter démocrate.
Okay.
Et dans la foulée du Black Lives Matter puis des violences policières à l'égard des Noirs, entre autres, ces messages-là auraient contribué, ou en tout cas auraient certainement tenté de les amener à ne pas voter. Est-ce que ça a marché? C'est à peu près impossible à vérifier.
Ouais, c'est ça.
Mais il y a eu une baisse significative dans le scrutin 2016. Donc, est-ce qu'on est fragile à ce genre de choses? Est-ce qu'il y a des enjeux aussi polarisants? Est-ce qu'il y a des questions aussi problématiques? Et est-ce qu'il y a des groupes de l'électorat qui sont pas particulièrement vulnérables? On peut penser particulièrement aux jeunes, mm-hmm, au Canada.
Ouais.
Justin Trudeau, en 2015, la campagne libérale, a beaucoup misé sur les médias sociaux, mais pour amener les jeunes à voter, justement, pour les... Et on sait que c'est un groupe qui a tendance à moins participer aux élections. Donc, pour lui, c'était une façon de consolider ses votes. Mais est-ce que ça pourrait être utilisé aussi à l'inverse pour dire oui, mais regardez, pour justement nourrir un certain cynisme à l'égard d'un parti pour lequel on a voté une fois? Et jusqu'à quel point ça va être utilisé? On peut dire qu'au Québec, moi, j'ai pas fait d'analyse évidemment approfondie sur les élections au Québec, mais je ne crois pas qu'il y ait eu de problème. En tout cas, on nous a pas parlé de problèmes majeurs de cette nature-là.
Mm-hmm.
Mais au Canada, évidemment, c'est un pays qui est présent sur la scène internationale, qui a des positions quand même assez fortes et qui a une certaine, sans avoir un certain pouvoir, là, c'est ce qu'on appelle un soft power, là,
une importance significative.
Puis qui défend des idées donc qui peuvent déplaire à certaines entités ailleurs dans le monde. Donc, il pourrait théoriquement être une cible de campagne étrangère. Et c'est ça, essentiellement ça, que nouvelle loi fédérale vise à empêcher, c'est l'ingérence étrangère, la dépense de fonds étrangers pour des campagnes politiques, pas seulement pendant la campagne, mais à partir de la fin juin, donc dans toute la période préélectorale,
mm-hmm,
puisqu'on a des élections à date fixe, hein, on peut commencer à se préparer plus tôt.
Ouais. C'est ça l'affaire aussi.
Ça va être une année intéressante.
C'est ça exactement, parce que l'affaire aussi, c'est l'élection fédérale qui s'en vient pourrait nous laisser voir ce genre de... c'est même pas un argument dans les faits, mais en tout cas, ce genre d'idée-là ressurgir, puis on l'a déjà vu chez les conservateurs d'Andrew Scheer, et des députés actuels ou des candidats qui ont déjà commencé à nous sortir la bonne vieille recette du fake news. Ça pourrait être le genre de tendance qui pourrait s'observer dans la fédérale.
Oui, la stratégie des conservateurs va être intéressante à observer. C'est évidemment eux qui peuvent bénéficier d'opérations, si on veut, soit de désinformation ou de cultiver un certain doute. Et
ouais,
puis, le doute en soi, c'est sain, c'est positif, mais c'est, on parle ici d'instrumentaliser un doute à des fins électorales, là, c'est pas désintéressé, et aussi de mobiliser des gens autour de certains enjeux qui divisent, et ces enjeux-là sont en partie les mêmes que ceux qu'on voit aux États-Unis. Des questions autour de l'immigration, des questions autour de la diversité sexuelle, des questions autour des droits des femmes, du féminisme, si on veut, plus généralement, et il y a eu un sondage qui est sorti juste avant Noël qui montrait qu'il y avait quand même, disons qu'il y a un potentiel de polarisation autour de certains de ces enjeux-là, peut-être pas aussi grand qu'aux États-Unis, mais jusqu'à présent, ce qu'on a vu d'Andrew Scheer, c'est qu'il y a eu peut-être, et des conservateurs plus généralement, il y a eu des tentatives ou des déclarations qui semblaient un peu aller dans ce sens-là, ouais. Mais très prudente, très nuancée et avec un très, très rapidement une rectification pour dire non, on n'attaque pas les journalistes, non, nous, on n'est pas contre l'immigration, on veut que ça soit bien fait, tout ça. Donc, c'est une approche, et là aussi, on parle plus de stratégie politique que de fake news, là, mais c'est une approche qui est beaucoup plus nuancée. Très semblable, en fait, à ce qu'on a vu faire François Legault, par exemple.
Oui, c'est vrai.
Donald Trump, il y a personne qui se compare à ça, mais même comparativement à quelqu'un comme Doug Ford qui a eu une approche totalement atypique, là. Donc, on sent pour l'instant que les conservateurs sont beaucoup plus prudents. Je ne pense pas qu'ils soient en train de négocier avec les Russes là au moment où on se parle là, pour faire des campagnes contre les libéraux. Je pense qu'il y a une prise de conscience aussi très importante qui a été faite dans la population et aussi auprès des instances électorales, des gouvernements, etc. Donc, je pense qu'il y a il y a peut-être déjà un peu plus de vigilance qu'il pouvait y en avoir en 2016. Ça ne veut pas dire que les Russes ont plus d'un tour dans leur sac et ils sont pas les seuls non plus, là. La possibilité existe toujours. Et il y a aussi la question de la responsabilité des plateformes. Google, Twitter, Instagram de ce monde. Quelle est leur responsabilité? Jusqu'à maintenant, l'Union européenne, par exemple, les a amenés eux-mêmes, les plateformes elles-mêmes, à se parler et à se développer elles-mêmes un code de conduite pour la désinformation. Au Canada, ce qu'on leur demande, c'est de compiler, si on veut, un registre des publicités numériques pendant la période électorale et de rendre ce registre-là public. Donc, n'importe qui pourra consulter les publicités les publicités qui ont été utilisées en période électorale, les publicités politiques. Un peu partout dans le monde, on leur a demandé aussi de développer des programmes ou des partenariats pour combattre la désinformation. Alors, ça peut être des initiatives en éducation aux médias, ça peut être des messages pour aider les gens à reconnaître les fake news quand ils en voient et aussi à les dénoncer parce que si on pense par exemple à Google et Facebook, ils se sont engagés à mettre dans leur algorithme ou un mécanisme de dévalorisation des informations douteuses. Mais là encore, ces entreprises-là sont très, très prudentes. Elles se sont associées avec des entreprises de presse. Dans le cas de Facebook, c'est l'agence France Presse qui est le partenaire canadien. On peut trouver ça étrange que ce soit l'agence France Presse qui n'a pas une très grande présence au Canada, mais c'est parce qu'ils sont, ils répondent aux critères, en fait, de Facebook. Ils ont une équipe de fact-checkers indépendants. Ils sont partenaires, si on veut, internationaux là, dans la lutte contre la désinformation, alors que les médias canadiens, les médias québécois n'ont pas ces ressources-là ou en tout cas n'ont pas cette structure-là.
Et c'est une tendance, en tout cas, qui m'inquiète personnellement parce que le travail que l'on fait n'a jamais été aussi critiqué dans les médias et je dirais depuis un bon deux ans et demi, jamais reçu autant de commentaires haineux. Puis on le voit notamment dans l'actualité avec le joueur de l'équipe de Canada Junior présentement.
Oui.
Mais toutes les sortes de commentaires très voraces du style « Bah, maudit journaleux, puis fake news. »
Les médias sont un bouc émissaire pour beaucoup de choses. Hein, quand on parle des médias en général, c'est sûr que Mais ça aussi, ça traduit, et je pense que comme journaliste et moi comme professeur, là, je m'interroge aussi là-dessus, c'est comment amener les gens à faire la distinction entre un travail journalistique sérieux et d'autres choses qui sont problématiques et ne pas formuler des jugements à l'emporte-pièce sur les médias, comme on ferait sur les politiciens, hein, sur... les gens, pour prendre mon exemple, les gens des sciences sociales, des sciences humaines, on peut porter un jugement très, très général, très, très englobant. Il faut faire attention à ça. Mais ça traduit une véritable frustration. Mais en même temps, le problème des médias, essentiellement, c'est un problème actuellement de financement.
Ouais.
On n'a pas vu quand même une levée de bouclier contre les mesures annoncées pour l'aide aux médias. Il y a eu quelques craintes évoquées ou quelques préoccupations, mais ça n'a pas soulevé un mouvement. Donc ça, c'est peut-être rassurant en un sens. Il y a quand même une confiance à l'égard de certains. Nous, on fait des enquêtes sur la confiance à l'égard des médias. Il y a quand même une confiance qui est relativement grande au Québec, au Canada.
Okay.
C'est sûr que c'est comparativement à d'autres pays. Là. Comparativement, il y a 20-30 ans, là, ça, c'est plutôt... Mais ce qu'on a vu même aux États-Unis, c'est qu'il y a eu une remontée de la confiance à l'égard des journalistes à partir de 2017. Et ça se maintient. Donc, c'est vrai qu'il ne faut pas trop se fier à tout ce qu'on lit sur les médias sociaux,
ouais.
Même si on reçoit des commentaires qui sont blessants et qui sont durs. De manière générale, la tendance est plutôt vers une remontée, mais il faut dire que c'était très, très bas avant. Mais je pense que la désaffection à l'égard des médias fait partie des faiblesses puis des vulnérabilités qui rendent une société qui rendent un contexte propice à des campagnes de propagande. Et bien sûr, les campagnes de propagande vont venir alimenter cette désaffection-là, ce cynisme-là. Donc, c'est un peu un cercle vicieux. Qu'est-ce qu'on peut faire comme journaliste, comme citoyen? C'est une bonne question, là. Je pense que maintenir le cap, continuer à faire son travail, ne pas trop s'embarquer dans des discussions à n'en plus finir avec des gens sur les médias sociaux.
Ça, il faut que je le note, je l'avoue.
Une perte de temps.
Ouais.
Je pense que d'ailleurs, de plus en plus de journalistes délaissent cette pratique-là. Je veux dire, le temps est déjà compté quand on fait ce métier-là. On ne peut pas commencer à répondre à toutes les personnes vraiment pas toujours très stables là, qui nous interpellent sur les médias sociaux et laisser le travail parler par lui-même. Mais d'un autre côté, une certaine... je sais pas comment dire, là, une certaine présence, une certaine ouverture, une certaine écoute, là, comme journaliste, c'est bien aussi.
Oui,
et une certaine sensibilité à ses propres biens. Je pense que même Donald Trump n'a pas toujours tort quand il dit que les médias sont contre lui, que les médias ne cherchent que les petites bêtes, les petites nouvelles désagréables le concernant, allant jusqu'à des petits détails, des images où il a l'air fou, des choses qui n'ont rien à voir là, vraiment avec son travail. C'est vrai aussi qu'on ne soumettait pas quelqu'un comme Obama à ce genre de couverture. Les médias de droite, extrême droite, oui, mais pas des médias de grande diffusion. Trump cherche un peu lui-même ses problèmes, là, mais il faut se concentrer sur des enjeux qui ont des conséquences politiques et faire une couverture qui est honnête, hein, même si le président ment clairement. Il faut toujours présenter des choses de manière factuelle et ne pas non plus s'aliéner le lectorat qui est plutôt sympathique à Trump. D'ailleurs, il y a un média qui semble encore réussir à le faire. Le média qui suscite une grande confiance autant de la part des démocrates que des républicains aux États-Unis, c'est le Wall Street Journal. Et c'est très intéressant de regarder comment le Wall Street Journal couvre Trump. Ça reste très factuel, très sobre. On pourrait dire que c'est comme si on le normalise, là, mais c'est peut-être la façon de procéder. Je dis pas que le New York Times doit arrêter de faire des enquêtes sur sa fraude et tout ça,
non.
Mais cette approche-là est intéressante parce que ça permet, quand on a vraiment quelque chose à dire, d'avoir aussi l'écoute des gens qui appuient. Mais bon, l'environnement médiatique américain est tellement polarisé et la société est tellement clivée, là, On n'en est pas là ici, heureusement, mais je pense qu'on doit quand même continuer à se tourner vers eux pour se dire, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait pour éviter ça?
Oui, ça laisse les émotions de côté, ça laisse les faits parler, effectivement. Merci beaucoup, Mme Brin.
Ça me fait plaisir. Bonne année à vous.
Bonne année à vous aussi. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler ce matin. Colette Brin est professeure à l'Université Laval et directrice du Centre d'études sur les médias. Si vous voulez en savoir davantage, cem.ulaval.ca pour des recherches justement menées sur ce genre de sujet dont on vient de discuter. 8h35, dans un instant, on s'en va complètement ailleurs. On va aller parler de hockey avec l'entraîneur-chef des Estacades Midget 3 de Trois-Rivières, Frédéric Lavoie.